Dr. John Oswald, Isaïe, Session 6, Isa. Septembre 2012. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 6, des chapitres 9 à 12 d'Isaïe. C'est un plaisir de voir chacun de vous ici. Merci d'être venu. Commençons par la prière. Père, nous nous réjouissons de ta présence ici. Nous te remercions d'être venu révéler ta volonté et tes objectifs. Merci. Merci de vous être révélé à chacun de nous de tant de manières différentes. Merci de vous être révélé avant tout en Jésus-Christ. Merci pour la promesse de la vie éternelle qui est la nôtre parce qu'il est venu, a vécu, est mort et est ressuscité. Merci. Aide-nous pendant que nous étudions cette partie de tes Écritures ce soir pour voir plus clairement qui tu es, ce que tu veux faire dans le monde et ce que tu veux faire en nous. En ton nom, nous prions. Amen. Cette section que nous essayons de couvrir ce soir est complexe et j'ai essayé de la retracer pour vous ici. La section entière, chapitre 7, 1 à 12, 6, n'est pas une confiance. Achaz refuse le défi de faire confiance à Dieu et de recevoir le signe de sa promesse en 7, 1 à 14. En conséquence, parce qu'il a fait confiance à la Syrie plutôt qu'au Seigneur, le jugement arrive. Nous en avons parlé la semaine dernière mais je l'ai déjà dit, je le répéterai plusieurs centaines de fois avant juin prochain. Le dernier mot voulu par Dieu n'est jamais un jugement. Son dernier mot est l'espoir. Et ainsi nous passons des ténèbres que nous avons vues à la fin du chapitre 8 la semaine dernière à la lumière de l'espoir. Mais ensuite il rentre et nous en parlerons ce soir. Que se passe-t-il ici? Et je l'ai appelé le vrai problème. Quel est le véritable problème auquel nous sommes confrontés ici? Est-ce Israël et la Syrie qui tentent de nous forcer à former une coalition? Ou est-ce la Syrie? Et la réponse est non. Ni l'un ni l'autre. Le vrai problème dont nous parlerons ici. Et puis Dieu annonce, je pense qu'à la lumière du vrai problème, la Syrie va être jugée. Oui, la Syrie sera utilisée pour vous juger. Mais la Syrie elle-même n'échappera pas au jugement. Et puis encore une fois, le branchement, chapitre 11. Et enfin, l'hymne de confiance sur la base de ce que Dieu a fait pour nous à travers le Messie. Donc ce soir, nous allons essayer de couvrir de 9h01 à 12h06. Et cela signifie que nous devons tous attacher nos ceintures de sécurité. Comme je l'ai dit il y a un instant, le chapitre 8 se termine sur cette note très, très sombre. Verset 20. Commençons par le verset 20 du chapitre 8. À l'enseignement et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'ils n'ont pas d'aube. Ils traverseront le pays dans une grande détresse et affamés. Quand ils auront faim, ils seront en colère et ils parleront avec mépris contre leur roi et leur Dieu et tourneront leur visage vers le haut et ils regarderont vers la terre. Mais voici, la détresse et les ténèbres de l'angoisse, ils seront plongés dans d'épaisses ténèbres. Si nous refusons la révélation de Dieu, il ne nous reste plus que les ténèbres. Mais ce n'est pas là que Dieu veut s'arrêter. Directement au chapitre 9, verset 1. Il n'y aura pas de tristesse pour celle qui était dans l'angoisse. Autrefois, ils méprisaient le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Or, ce sont là les deux tribus les plus septentrionales qui font obstacle à la Syrie à leur arrivée. C'est ici que devaient avoir lieu les premières déprédations assyriennes, dans le royaume du Nord. Autrefois, ils méprisaient le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais dans les derniers temps, il rendit glorieux le chemin de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des nations. Et vous vous souvenez de l'endroit où le ministère principal de Jésus s'est déroulé, en Galilée des nations. L'endroit même où les ténèbres ont commencé à consumer la terre et l'endroit où Dieu enverrait sa lumière. C'est le Dieu que nous servons. Oui, nous pouvons attirer les ténèbres sur nous-mêmes par notre refus, mais ce n'est pas là que Dieu a l'intention de nous laisser. Il entend nous éclairer de sa lumière. Ainsi donc, dans les versets suivants, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. La lumière a brillé sur ceux qui habitaient dans le pays des ténèbres profondes. Nous voyons donc ici cette promesse, la promesse de la lumière que Dieu va briller. Maintenant, quelle est cette promesse? Regardez les versets 4 et 5. Quelle est la promesse? Que va-t-il supprimer? Je vais en finir avec la guerre, n'est-ce pas? Toute cette situation est confrontée à ce monstre assyrien qui arrive avec les instruments de guerre. Israël et la Syrie disent, nous devons le combattre avec des instruments de guerre. Et la promesse ici est que celle-ci va mettre fin à la guerre. La solution aux promesses du monde, excusez-moi, la solution aux problèmes du monde ne sera pas résolue par la guerre. Oh mon Dieu, qui ça va être? Ce sera un enfant? Non. Ce sera l'incroyable Hulk. Ce sera Monster Man. Il va venir battre tous nos ennemis. Un enfant? De quoi parles-tu? Maintenant, remarquez jusqu'ici, les enfants. Qui accompagne Isaïe à la rencontre d'Achaz? Shear Yashub, seul un reste reviendra. Quelle est la promesse? La Vierge concevra et enfantera un fils et vous appellerez son nom Dieu avec nous. Allez chez la prophétesse et elle concevra et vous nommerez l'enfant Maïr Shalal Ashbaz. Les louanges accélèrent la précipitation du gâchis. Des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Que dit Dieu dans tout cela? Messie? Mais pourquoi le Messie devrait-il être présenté comme un enfant? Oh oui, mais je veux dire, il aurait probablement pu venir au bingo en tant qu'être humain à part entière. Aucune puissance. Oh mais Dieu, nous avons besoin de puissance telle que nous la concevons. La faiblesse de Dieu est plus forte que notre force. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses insensées de ce monde pour confondre les sages et cela se retrouve partout ici. Un enfant nous est né. Maintenant, il y a des gens qui disent bien que c'est de cela qu'il s'agit d'Ézéchia. Ézéchia est l'enfant dont nous parlons ici et qui va naître du roi Achaz. Il y a une raison principale pour laquelle ce n'est pas vrai. Regardez la fin du verset 6. Qui est cet enfant? Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, de l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. Non, nous ne parlons pas d'Ézéchia. L'espoir du monde ne réside dans aucun Ézéchia. Aussi bon qu'ait pu être Ézéchia. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Alors, voici juste une sorte d'instantané. Oui, vous vous êtes jugé, mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Maintenant, avant de quitter, permettez-moi de vous poser encore une question. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Rien. Rien. La grâce de Dieu ne dépend de rien de ce que nous faisons. Nous devons le souligner encore et encore. S'il y a de l'espoir pour nous, ce n'est pas parce que nous allons d'une manière ou d'une autre mettre de l'ordre dans notre maison. Le seul espoir pour nous est que Dieu fasse irruption dans nos ténèbres avec sa lumière et c'est la bonne nouvelle. Bon, passons à autre chose car tout d'un coup Isaïe est marqué par deux choses qui sont contradictoires. L'une est celle des transitions dans lesquelles vous passez si facilement d'une section à la suivante que vous ne savez pas vraiment où se termine l'une et où commence l'autre. L'autre chose qui le caractérise, c'est l'absence de transition et regardez ici. Regardez 9h08. Maintenant, rappelez-vous que vous devez toujours le garder en tête, surtout en ce moment. Israël peut être utilisé de deux manières. Il peut être utilisé par la nation entière et par le royaume du Nord et il faut toujours se demander lequel de ces éléments est destiné ici. Eh bien, remarquez ce que 8 et 9 comment ils lisent. Le Seigneur a envoyé une parole contre Jacob, elle tombera sur Israël et tout le peuple connaîtra Éphraïm et les habitants de Samarie. Lequel des deux s'agit-il? C'est le royaume du Nord, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de l'ennemi au Nord, du frère ennemi qui menace Juda. Maintenant, comme je le souligne en arrière-plan, il s'agit d'un poème de 9, 8 à 10, 4 qui est très soigneusement structuré. Il y a 3 strophes en vers et 4 d'entre elles et chaque strophe se termine par le même refrain. Regardez le verset 12, la dernière phrase du verset 12. Que dit-elle? Malgré tout cela, sa colère ne se dissipe pas, sa main est toujours tendue. Or, l'hébreu n'a pas de mot pour point, c'est de cela dont nous parlons. Malgré tout cela, sa colère ne se dissipe pas, sa main est toujours tendue. Très bien, regardez la dernière phrase du verset 17. La voilà encore et maintenant la dernière phrase de 10-4. La voilà encore. La raison pour laquelle celui qui a mis les divisions de chapitres a probablement mis une division de chapitre à 10 et que celle-ci commence par malheur. Les 3 autres ne le font pas, mais il est clair que le poème est 9-8 à 10-4. Il se passe donc certaines choses pour lesquelles Dieu est en colère et pour lesquelles son poing est levé. Maintenant, quelles sont ces choses? Regardez cette première strophe 8, 9, 10, 11 et 12. L'arrogance est l'arrogance qui dit avec orgueil et avec arrogance de cœur. Les briques sont tombées, nous reconstruirons avec des pierres de taille. Les sycomores ont été abattus, nous mettrons des cèdres à leur place. Certains d'entre vous savent peut-être qu'il existe actuellement un phénomène dans le secteur de l'édition. Un gars a écrit un livre à ce sujet. Chose intéressante, le lendemain du 11 septembre, je sais que ce n'était pas John Edwards, mais que quelqu'un s'est levé au Sénat et a cité ce verset. Eh bien, je pense que c'est Edwards qui l'a fait plus tard. Lorsque le mémorial a eu lieu, c'est Dash qui l'a fait en premier et John Edwards l'a fait ensuite. Tous deux le citaient sans aucune connaissance du contexte. C'est de l'arrogance. Si bien que les briques sont tombées, nous allons le reconstruire en pierre de taille. Dieu dit bonne chance. Ainsi, l'auteur de ce livre a alors dit, « Ah, ces vers parlent de l'Amérique maintenant et je suis désolé mais non. » Ces types ont mal cité le texte et, en ce sens, si nous le disons avec fierté, nous sommes passibles du même genre de jugement. Mais ce n'est pas écrit pour parler de nous. D'accord, il y a donc l'arrogance numéro 1 et nous en avons déjà parlé, nous en parlerons plusieurs fois avant d'avoir terminé. Voici la question fondamentale. Qui est Dieu? Tout au long de ce livre, cette question revient et vous vous souvenez que j'espère que ce que j'ai dit est qu'à bien des égards, les chapitres 7 à 39 sont une suite des trois premiers versets du chapitre 6. La nation doit avoir une vision de Dieu comme l'homme a eu une vision de Dieu et l'homme a vu Dieu haut et élevé. Pas les humains. Voici donc le problème numéro 1. Premièrement, nous devons comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. Deuxième verset 13 à 17. Mais elle parle de faux enseignants. Même. Faux enseignants. Des dirigeants élevés et gonflés. Encore une fois, c'est une question dont nous parlerons à maintes reprises au cours de notre étude. Cette tendance de notre part en tant qu'être humain à exalter les dirigeants humains et à attendre d'eux qu'ils résolvent nos problèmes. C'est tout à fait approprié pour octobre et novembre 2012. Peu m'importe pour qui vous votez, mais si vous pensez que l'un ou l'autre de ces gars va résoudre nos problèmes, cela n'arrivera pas. Ça ne va pas arriver. Donc, le numéro 1 est l'arrogance. Se mettre à la place de Dieu. Numéro 2, exalter les dirigeants humains. Notre espoir est en Dieu et oui, nous pouvons être convaincus, d'une manière ou d'une autre, de savoir qui devrait être élu. C'est intéressant, mais en écoutant, vous savez qu'il est très clair que celui qui sera élu, ce pays court un danger désespéré. Si vous êtes démocrate, les républicains vont nous ruiner. Si vous êtes républicain, les démocrates vont nous ruiner. Nous allons être ruinés de toute façon. Alors, quel est le numéro 3? Oui, la terre est brûlée. Manassé dévore Éphraïm. Éphraïm dévore Manassé. Ensemble, ils sont contre Juda. Violence et cruauté. Et quelle est la dernière? Oppression. Oppression. Manque de justice. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une progression intentionnelle ici ou non, mais c'est plutôt intéressant. Si vous pensez que l'humanité est la réponse à tout, il est alors assez facile d'exalter les dirigeants humains et d'attendre d'eux qu'ils résolvent vos problèmes. Et lorsqu'ils ne le font pas, le résultat est une violence et une cruauté fondée sur l'oppression et l'injustice. Maintenant, que se passe-t-il ici? Comme je l'ai dit, le problème est la Syrie. Non, le problème est qu'Israël et la Syrie s'opposent à nous et tentent de nous faire entrer dans une coalition contre la Syrie. L'enjeu est politique. L'enjeu est militaire. Le problème est que Dieu dit que le problème est, qu'allez-vous faire de moi et de ma Torah? Mes instructions? Vas-tu me mettre à la bonne place dans ta vie? Allez-vous savoir qu'aucun humain n'est la solution à votre problème? Vas-tu aimer quand tu n'es pas aimé? Allez-vous pratiquer la justice alors que tout ce que vous obtenez en retour est l'injustice? La question est, qu'allons-nous faire de Dieu et de sa Torah? C'est là le problème. C'est à cela que nous devons faire face, dit Dieu. Et l'accent mis ici sur Israël signifie en quelque sorte que parce que vos ennemis du Nord ne s'attaquent pas ici, ils sont sous jugement. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'eux. Revenons ici à la promesse qu'Ésaïe a faite, ces nations vont disparaître. Avant que cet enfant qui serait conçu aujourd'hui n'ait 12 ans, ces deux nations disparaîtront. C'est avec Dieu que vous devez composer. Dans cette optique, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Maintenant encore, je fais de gros efforts pour m'en sortir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des observations, n'hésitez pas à les formuler. Je vous en prie. Des questions, des commentaires ou des observations sur cette section? Oui. Ouais. Ouais. Je trouve tout simplement stupéfiant que nous, chrétiens, soyons des adeptes de la mode, comme tout le monde. Tyndall House Publishers possède un entrepôt rempli de produits laissés pour compte. Alors, quel sera le prochain phénomène? Alors oui, si Dieu peut l'utiliser par tous les moyens. Mais c'est tout simplement fascinant pour moi de voir comment nous pouvons nous laisser entraîner dans ces choses. Très bien, allons de l'avant alors. Si nous voulons nous concentrer sur Dieu et faire de lui la clé de notre vie, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des Assyriens. Au chapitre 10 commençant au verset 5, nous avons l'annonce de Dieu. Le jugement va tomber sur Israël et la Syrie. Le jugement va tomber sur la Syrie. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que, selon les versets 5 et 15, qu'est-ce que la Syrie? L'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu. Le bâton de ma colère. La hache. Supposons maintenant que je dise que c'est ce que l'islam représente pour nous en tant qu'Amérique chrétienne. Comment répondriez-vous à cela? J'entends un amen. Eh bien, il pourrait y avoir un danger de trop s'étendre parce que nous nous qualifions de nation chrétienne, mais nous ne sommes pas vraiment une nation chrétienne. Nous sommes une nation de chrétiens. Je remets donc en question l'idée selon laquelle l'islam est l'instrument de Dieu pour l'ensemble des États-Unis. Je pense que c'est un instrument pour les chrétiens. Ouais, je pense que tu as raison. Vous ne pouvez pas faire un pour un. L'Amérique n'est pas directement équivalente à Israël. Nous ne sommes pas le peuple élu. Je pense que oui. Nous sommes. Rendez-moi après. Eh bien, ne me livrez pas l'islam. C'est une hérésie chrétienne. Pardon? C'est une hérésie chrétienne. Oui, je suis d'accord. La plus grande hérésie du monde. Mais le problème est le suivant, Dieu peut-il utiliser un groupe pire pour punir le meilleur groupe? Et la réponse est oui. C'est exactement ce qu'il dit à Habacuc. Habacuc dit, Dieu, pourquoi ne juges-tu pas les injustes? Et Dieu dit que tu penses que c'est un problème? Devinez quoi, j'amène les Babyloniens. Et Habacuc dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit, surveille-moi. Encore une fois, lorsque nous examinons la géopolitique, nous devons constamment nous rappeler que Dieu est dans les coulisses pour réaliser ses bons desseins. Et s'il a besoin d'utiliser nos ennemis, il le fera. Oh oui, encore une fois, je ne le suis pas, j'essaie juste de faire comprendre que lorsque nous regardons nos ennemis, nous devons considérer la possibilité que Dieu soit à l'œuvre. J'hésite à dire cela parce que cela vous donne l'impression d'être indulgent avec cela. Mais je pense que l'exemple du 11 septembre retient notre attention. Bien sûr. Bien sûr. D'accord, c'est ce que dit Dieu, vous voyez la Syrie comme une terrible menace pour votre existence. Vous devez résoudre le problème de la Syrie. Et Dieu dit, et, la Syrie est le bâton dans ma main. Vous devez venir à bout de moi. Et laissez-moi m'occuper de la Syrie. Alors, que pense faire la Syrie? La Syrie pense qu'elle gagne. La Syrie pense qu'elle gagne. L'idée qu'il serait l'instrument du Dieu de ce petit pays de Juda est ridicule. Ouais, et, je suis comme un gars qui sort des œufs d'un nid d'oiseau. Les oiseaux ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas papillonner et gazouiller. Mais au verset 12, lorsque l'Éternel aura terminé toute son œuvre sur le mont Sion et à Jérusalem, il punira les discours du cœur arrogant du roi d'Assyrie et le regard vantard de ses yeux. Dieu peut en effet utiliser les plus méchants pour punir les moins méchants. Mais les plus méchants ne s'en sortiront pas. Et c'est encore une fois ce que Dieu a dit à Habacuc. Ma loi morale n'a pas changé. Le jour viendra où eux aussi se présenteront devant la barre de la justice. Vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. Le problème est de se concentrer au bon endroit. Nous avons parlé ici d'arbres et de forêts. Regardez les versets 18 et 19. Que représentent les arbres ici? Ne lisez pas les notes de bas de page. Et les fleurs tombées? Oui. Les arbres du livre sont utilisés de deux manières différentes. L'un est l'abondance, la stabilité et la fécondité. L'autre est l'arrogance, la fierté et le pouvoir. C'est ainsi qu'il est utilisé ici. Nous, les Assyriens, nous sommes comme une grande forêt. Et Dieu dit que tu es la hache dans ma main. Je vais vous apporter la hache. Les restes d'arbres de sa forêt seront si peu nombreux qu'un enfant, nous y voilà encore, qu'un enfant puisse les écrire. Maintenant rappelez-vous, à cette époque, à l'époque d'Isaïe, la Syrie était la force dominante dans le monde depuis 200 ans. 200 ans. Croissance et déclin, mais la Syrie était toujours le problème. Laissez-moi y réfléchir selon nos propres termes. Quelque chose est une puissance dominante depuis 2 siècles. Waouh ! Et maintenant, ils en sont à leur dernier ascendant. Et ce fou Esaïe dit, Dieu va les abattre dans un instant. Ils atteignirent leur apogée en 650 et, en 40 ans, la Syrie n'existait plus. Vous ne voulez pas jouer avec le « je suis ». Encore une fois, il est facile pour nous, à cette distance, de dire « oh oui, la Syrie s'est élevée, a dominé le monde et est tombée ». Mais quand vous êtes au milieu de tout cela, ils sont là depuis toujours. Ils seront là pour toujours. Dieu est celui qui est là pour toujours. Et son enfant le Messie, dont le royaume n'aura pas de fin. La Syrie n'est qu'un bâton dans ma main. Eh bien, je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas dire avec l'inspiration du Saint-Esprit, comme un Isaïe pourrait le dire, « Eh bien, voici ce que cela signifie. » Je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire, sur la base des Écritures, que Dieu contrôle l'histoire. Et rien de ce qui arrive ne le surprendra. Il va atteindre ses objectifs. Ils ne nous seront peut-être pas très agréables. Mais il va atteindre ses objectifs. Et nous pouvons vivre en toute confiance. J'ai eu le privilège de parler à la chapelle de l'université Taylor ce matin. Si je vais dormir ici, ne me réveille pas. Mais j'ai regardé ces 1200 enfants. Et j'ai pensé, à quoi vont-ils faire face avant d'avoir mon âge? Leur génération est, à ce stade, la génération la plus sans église depuis que des chiffres ont été conservés. Et nous regardons l'Angleterre. J'ai lu certains sermons de Keswick, la grande conférence sur la sainteté. Et l'évangélisme n'est qu'un tout petit fragment, 1 ou 2%, presque aussi insignifiant que le christianisme au Japon. Mais Dieu contrôle l'histoire. Et donc nous pouvons vivre en toute confiance. Oui. Une longue file d'attente. Je pense à mes petits-enfants. Ils vont être exposés à une laïcité toujours plus agressive dans notre société. Mais ce qui me dérange parfois, c'est que nous, chrétiens, agissons comme si nous étions libres. Ouais, précisément. Que devrions-nous être, à mon avis? Ce devrait être la confiance. Nous allons faire confiance à Dieu. Nous allons vivre pour lui. Et Dieu pourra utiliser ceux qui lui font confiance pour son propre bien. Très bien, attendons avec impatience. Au milieu du chapitre 10, versets 20 à 27, Dieu revient et parle au peuple hébreu. Le verset 20 nous dit ce qui va se passer. Que vont-ils faire quand le reste reviendra? Ils vont compter sur le Seigneur. Au lieu de compter sur la Syrie, celle qui a frappé. Et encore une fois, vous voyez en quelque sorte Isaïe dire, c'est faux. Pourquoi feriez-vous confiance à la Syrie pour vous délivrer de vos deux voisins du Nord? La Syrie est le problème. Mais le jour viendra. Le jour viendra où vous reprendrez vos esprits. Et vous ne compterez pas sur les Assyriens de ce monde. Vous compterez sur le Seigneur. C'est donc une chose qu'il dit. Oui. Oui. Alors, dit-il, n'ayez pas peur. Verset 24. Encore une fois, c'est facile à dire. Mais je pense que cela répond à la question que vous avez soulevée, Mel. Si vous regardez cette situation où, à cause de votre refus de faire confiance, la Syrie va venir vous inonder jusqu'au nez, n'ayez pas peur. Et nous disons en quelque sorte, eh bien, c'est facile à dire pour vous, mon Dieu. Mais c'est ce qu'il dit. Et c'est là que, alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, à des changements inimaginables, Dieu nous dit de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je suis en contrôle. La dernière partie du chapitre 10 est l'image d'une armée descendant la crête centrale en direction de Jérusalem. Encore une fois, c'est l'une des illustrations graphiques classiques d'Isaïe. Les villages répertoriés ici sont classés du nord au sud. Et ainsi il vient, et la façon dont c'est écrit vous donne ce sentiment d'urgence et d'inévitabilité. Il est venu sur terre. Il est passé par Migron. Chez Micma, il stocke ses bagages. Ils ont franchi le col. Il passe la nuit à Géba. Rama tremble. Gibéa de Saul s'est enfui. Crie à haute voix, ô fille de Galim. Fais attention, ô Lèche. Ô pauvre Anatote. Madmana est en fuite. Les habitants de Gébé prennent l'avion pour se mettre en sécurité. Aujourd'hui même, il fera halte à Nob. Nob est la colline au nord où se trouve aujourd'hui l'université hébraïque. vue sur Jérusalem. Cénob. Le jour même, il fera halte à Nob. Il brandira son poing vers la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Réalité? Non. Voici, le Seigneur Dieu des armées du ciel coupera les branches avec une puissance terrifiante. Les plus grands seront abattus. Les nobles seront abaissés. Il abattra les bosquets de la forêt avec une hache et le Liban tombera sous le majestueux, donnant directement sur Jérusalem. Et Dieu dit que ça suffit. Alors, la puissance impressionnante de cette armée ennemie est-elle la réalité à laquelle vous devez faire face? Non. Dieu est la réalité avec laquelle vous devez faire face. Et si c'est le cas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les chercheurs se demandent si cela s'est réellement produit. Nous n'avons aucune trace de ce qui s'est produit. Je pense que c'est littéraire. Je pense qu'Isaïa essaie simplement de faire comprendre ce point. Pensez-vous que c'est inévitable? Pensez-vous qu'il n'y a pas d'échappatoire? Oui, il y a. Dieu est la réalité, pas l'armée ennemie. Cela étant, nous arrivons au chapitre 11. Vous vous souvenez du chapitre 6, verset 13? Combien de temps veux-tu que je prêche de cette façon, Seigneur? Jusqu'à ce que la nation entière soit incendiée. Jusqu'à ce que ce soit un champ de souches calcinées. Mais, chapitre 6 verset 13, la semence sainte et son moignon. Alors, encore une fois, on nous demande de réfléchir à la réalité. Ô mon Dieu, la puissante forêt d'Assyrie. C'est la réalité. Quelle est la réalité selon 11.1? Du moignon de Jessé sortira une pousse. Petite pousse verte impuissante. Marchez dessus et c'est mort. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Une branche de ses racines portera du fruit. Dieu, quelle est ta solution à l'incroyable problème du mal cosmique? Une vierge de 15 ans qui est enceinte. Quoi? C'est une princesse, hein? Non, c'est une fille réfugiée. Vous vous moquez de moi, mon Dieu. Non, je ne suis pas. Du moignon de Jessé naîtra une pousse. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui utilise les petites choses et les moindres choses. Maintenant, je ne connais pas la réponse à cette question. Je le pose quand même. Je me demande pourquoi il dit du moignon de Jessé et non du moignon de David. Encore une fois, au chapitre 11, verset 10, nous avons la même chose. En ce jour-là, la racine de Jessé. Ouais, mais ils essaient juste d'aider les gens qui ne savent pas qui est Jessé. D'accord. Jessé est le petit-fils d'un juif et d'un gentil, Boaz et Ruth. David est l'arrière-petit-fils. Mais oui, je pense que c'est une possibilité réelle. Ce que j'ai lu, c'est que cela pourrait être une gifle contre Achaz et peut-être même heurter le kayak. Oui, oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est une possibilité. Ces gars disent, nous sommes la maison de David. Rien de mal ne peut arriver à la maison de David. Et c'est comme si Isaïe disait, eh, ce n'est pas David. David n'est pas une patte de lapin magique. C'est la promesse de Dieu qui remonte derrière David et bien plus loin encore. Je pense que c'est une possibilité. Il y a d'autres aussi. Oui. Cela ne pourrait-il pas aussi représenter une nouvelle vie, un nouveau royaume qui est en train de naître? Parce que je veux dire, bien que Jésus soit de la lignée, c'est un nouveau royaume que Jésus apporte. D'accord. La suggestion est qu'il s'agit d'un nouveau royaume. Ce n'est pas seulement contenu dans David. C'est un nouveau royaume que Jésus apporte. Ouais. Signe de faiblesse? David était considéré comme fort. Jessé est juste un. Ok, David est fort. C'est le roi. Il peut le faire. Jessé n'est personne. C'est juste un agriculteur. Ouais. Je pense que tout cela est possible. Et nous ne connaissons pas la réponse finale, mais, encore une fois, c'est le genre de choses auxquelles vous devez penser lorsque vous étudiez la Bible. Pourquoi est-il là? Je ne l'ai pas dit récemment, mais à plusieurs reprises. Il n'y a rien ici par accident. Si c'est ici, c'est ici parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Maintenant, pourquoi pensez-vous que l'accent est mis sur l'esprit au verset 2? L'esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de compréhension. L'esprit de conseil et de puissance. L'esprit de connaissance et la crainte du Seigneur. Selon vous, Quel est le but? D'accord. C'est l'esprit qui renforce et donne du pouvoir. Mais pourquoi insister sur le fait que le Messie sera rempli de l'esprit? Bien. Le fruit de l'esprit. D'accord. D'accord. Ce n'est pas un roi qui va gouverner avec le pouvoir humain. Au pouvoir de la chair. Il va gouverner avec la puissance divine. Mais est-ce que l'esprit du Seigneur est venu sur eux? Ouais. Ouais. De toute évidence, je pense que ce point a été souligné. Cet enfant, ce bébé ne va pas gouverner selon les normes de la royauté humaine. Selon les normes du pouvoir humain. Bien. Continuons. Le mais qui commence le verset 4 signale un contraste entre les versets 3 et 4. Quel est le contraste là-bas? La méthode de son jugement. Oui. Oui. Il ne le fera pas et encore une fois, je pense que cela reflète cette insistance sur l'esprit. Il ne sera pas gouverné par la surface. Il ne se laissera pas guider par les apparences. Il va être guidé de l'intérieur. Avec justice, il jugera les pauvres. Il décidera avec équité pour les humbles de la terre. Avec quoi frappera-t-il la terre? La tige de sa bouche. Comment la plupart des rois frappent-ils la terre? Avec leur sceptre. Avec leur épée. Quel est le but ici? Le pouvoir de la parole. Le mot. Et on ne va pas prendre le temps mais la note est là. Apocalypse 19.15 parlant du retour du Seigneur dit qu'il va frapper la terre avec le bâton de sa bouche. Ainsi, Jean, le révélateur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, reprend et dit oui, voici de quoi nous parlons. Là encore, vous avez une illustration graphique. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couche avec le chevreau. Etc., etc. J'ai été aidé il y a des années à réfléchir à ce passage lorsque C.S. Lewis a dit que je ne pense pas que nous parlions ici de choses littérales. Si c'était le cas, le lion devrait avoir recours à des soins dentaires. Les dents d'un lion sont faites pour déchirer la viande. Il ne peut pas mâcher l'herbe. Mais s'il s'agit d'une illustration, à quoi sert l'illustration? Paix. Je reviens ici. Les conflits, la compétition, la violence sont des choses qui semblent endémiques à l'humanité. Il va changer. Comme je vous l'ai déjà dit, l'une des raisons pour lesquelles je suis prémillénariste est que je veux voir la terre lorsque Jésus la gouvernera. Je veux voir la terre telle qu'elle était censée être. Ils ne blesseront ni ne détruiront toutes mes montagnes saintes, dit le verset 9. Ce verset est répété exactement dans Ésaïe 65 lorsqu'il parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Pourquoi? Car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur. Chapitre 6 La terre est pleine de la gloire du Seigneur. Et son objectif ultime est qu'il soit rempli de la connaissance du Seigneur. Nous le connaîtrons tous. Il veut être connu. Ainsi donc, le verset 10, en ce jour-là, est la racine de Jessé, qui se dressera, 17 versions, comme un signal pour le peuple. Revenez au chapitre 5. La vigne aux raisins amers, il dit au verset 26 qu'il fera quoi? Il élèvera un signal pour les nations lointaines, il les sifflera des extrémités de la terre. Voici, vite, vite, ils arrivent. Maintenant, le mot utilisé ici est une bannière. Certaines versions parlent d'un enseigne. Mais c'est l'idée d'un drapeau. Ainsi, au chapitre 5, Dieu hisse un drapeau sur le mât pour appeler les nations ennemies à venir détruire son peuple. Or, au chapitre 11, en ce jour-là, la racine de Jessé sera comme une bannière pour le peuple. Les nations le consulteront et son lieu de repos sera glorieux. Il le dit encore au verset 12. Il élèvera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Le Messie sera le drapeau que Dieu hissera sur le mât. Il a appelé les nations et les peuples à venir, mais ce n'est pas son intention ultime. En fin de compte, il ira vers le Messie de sa nation qui sera celui qui appellera toutes les nations à venir. Chapitre 2 pour apprendre la Torah de Dieu sur sa montagne. Oui oui oui. Et ainsi il parle des nations qui ramèneront les captifs et qu'Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Ils attaqueront plutôt les nations ennemies. L'une des choses que nous allons voir tout au long de ce livre est que les nations ont le choix. Soit ils viennent adorer Dieu avec Israël sur le mont Sion, soit ils seront les esclaves d'Israël. Tels sont les choix. Qui va-t-il être? Verset 16 Il y aura une route depuis la Syrie pour le reste, les restes de son peuple, comme il y en avait pour Israël lorsqu'ils remontèrent du pays d'Égypte. Si vous voulez lutter contre Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des Assyriens. Ils vont être jugés et votre Messie sera le drapeau appelant toutes les nations à venir. Et s'ils font l'expérience de la gloire et de la connaissance de Dieu. Arbre, bannière, autoroute, ce sont trois des thèmes qui reviennent encore et encore tout au long du livre. Ainsi, au verset 16, il y aura une route depuis la Syrie pour le reste de son peuple. Oui, oui, si vous faites confiance à la Syrie, le jour viendra où elle se retournera contre vous et vous détruira. Mais ce n'est pas là que Dieu veut que cela se termine. Un jour, il a l'intention de vous ramener à la maison. De la Syrie, de l'Égypte, des extrémités de la terre. Et nous avons bien survécu pour voir cela se produire. Tout simplement impensable. Ces peuples étaient dispersés partout dans le monde il y a 1700 ans. Tous les peuples parmi lesquels ils ont vécu ont fait tous les efforts possibles pour les exterminer. Ils ont conservé leur identité contre toute attente et sont désormais de retour dans leur pays. Je le dirai à plusieurs reprises. La Syrie, Israël est aujourd'hui athée à 90%. Nous n'avons pas besoin, en tant que nation, de justifier tout ce que fait Israël en tant qu'entité politique. D'un autre côté, je suis convaincu que Dieu a toujours la main sur eux et qu'il vaut mieux ne pas les déranger. Ouais, je pense que je me méfie beaucoup de ce que vous voyez sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. Quelqu'un m'en a envoyé une cette semaine qui était tout simplement incroyablement mauvaise et le gars, un évangélique qui racontait simplement les faits selon lesquels Jésus avait nommé l'Antéchrist, vous pouvez deviner qui est le nom et il a dit que vous savez, je vous raconte simplement les faits et il avait cette fait. Si ces demi étaient faux et l'autre moitié était mal comprise, donc je me méfie vraiment de ce que je vois sur YouTube. D'accord, laissez-moi parler de midi à 6h et nous reviendrons sur la bonne voie. N'oubliez pas que nous ne nous réunissons pas la semaine prochaine, nous nous réunirons le 5 novembre. C'est différent du calendrier. Nous ne nous reverrons pas la semaine prochaine. Nous nous retrouverons le 5 novembre. Ok, alors quel est le résultat? Dieu est venu en son Messie. Il est venu délivrer son peuple. Tu diras ce jour-là, je te rendrai grâce, ô Seigneur, car même si tu étais en colère contre moi, ta colère s'est détournée afin que tu puisses m'encourager quand tu vois du réconfort dans la Bible, pense qu'encourager c'est très malheureux, le réconfort pour nous est un réconfort chaleureux et flou. Ô tu es si gentil, non, le mot est mis en acier dans la colonne vertébrale, ta colère s'est détournée pour que tu puisses m'encourager, voici Dieu et mon salut, ce que je ferai, en quoi faire confiance, oui alors j'ai refusé de lui faire confiance, à la place j'ai fait confiance à mon pire ennemi qui m'a jugé, mais Dieu donne gracieusement son Messie avec le pardon, l'encouragement et le salut et donc je lui ferai confiance. J'aurais dû lui faire confiance en premier lieu mais je ne l'ai pas maintenant, il a récolté les résultats, il vient en grâce, je lui ferai confiance et je n'aurai pas peur. Le Seigneur Dieu est ma force et mon chant, il est devenu mon salut, c'est une citation du chant de Moïse de l'autre côté de la mer Rouge, avec joie tu puiseras de l'eau au puits du salut et tu diras ce jour-là, rends grâce au Seigneur, invoque son nom, fais connaître ses actes parmi les peuples, oui chapitre 2 tu as une mission, chapitre 4 tu vas être purifié et rendu pur, pourquoi? Pour le bien de la mission, chanter des louanges au Seigneur car il a fait glorieusement que cela soit fait savoir sur toute la terre, les croyants ne peuvent pas se taire, crier, chanter de joie aux habitants de Sion, pourquoi? Car grand parmi vous est le Saint d'Israël, le Saint le transcendant comme aucun autre qui s'est donné à Israël. Waouh, il n'était pas obligé de faire ça mais il a fait le Saint d'Israël, d'Israël le Saint. À chaque fois tu rencontres cette phrase dans Isaïe, pense à ces deux pôles, il est le Saint d'Israël, transcendance, immanence, ok. Il me semble que j'arrête à 8h mais merci beaucoup, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouvera le 5 novembre et on en parlera à propos des chapitres 13 et 14. Le guide d'étude est là sur la table si vous n'en avez pas reçu à votre arrivée. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 6 d'Isaïe, chapitre 9 à 12.